Radio Prague, les informations.
Journée cruciale pour les négociations en vue de la formation d'un gouvernement. La décision de libérer ou non Radovan Krejčír, reportée à mercredi par la justice sud-africaine. Et à Prague, 400 personnes se sont rassemblées pour soutenir l'opposition en Ukraine. Ce sont les principaux titres de ce bulletin d'information. Le chef de la social-démocratie, Bohuslav Sobotka, a critiqué le fait que les négociations en vue de la formation d'un gouvernement devront se tenir sans Pavel Bielobradek, le leader du parti chrétien-démocrate. Selon le site d'information Idnes.cz, celui-ci doit effectuer un voyage de 12 jours aux États-Unis. Le sénateur Stanislav Juranek doit le remplacer pour ces négociations entre le parti social-démocrate, le mouvement de l'action des citoyens mécontents Anneau, tous deux arrivés en tête des dernières législatives, et les chrétiens démocrates. Les trois formations se réunissent ce lundi pour la deuxième fois seulement depuis ce scrutin qui s'est déroulé fin octobre. Bohuslav Sobotka a déclaré que les négociations allaient se poursuivre même en l'absence du leader chrétien démocrate. Ce dernier estime de toute façon que les discussions ont peu de chances d'aboutir d'ici là. Toujours selon Pavel Bielobradek, qui s'est exprimé dimanche à la télévision, son parti pourrait finalement décider de ne pas rejoindre le gouvernement. Un tribunal sud-africain a décidé ce lundi de reporter à mercredi la décision de libérer ou non l'homme d'affaires tchèque Radovan Krejčíř, actuellement en détention préventive. La police l'a arrêté il y a près de 10 jours car il est soupçonné d'enlèvement et de tentative de meurtre. Il a proposé de payer une caution de 50 000 francs, plus de 3 600 €, mais le procureur a refusé cette offre. Il n'est pas inconnu des services de police, que ce soit en Afrique ou en Europe, considéré comme un des Tchèques les plus riches dans les années 1990, Radovan Krejčíř s'était réfugié aux îles Seychelles après avoir fui lors de la perquisition de sa villa pragoise en septembre 2005. Depuis 2007, il vit en Afrique du Sud, pays qui a refusé de l'extrader en République tchèque, où il a été condamné par contumace à plus de 10 années de prison pour évasion fiscale. Environ 400 personnes se sont rassemblées à Prague, sur la place Palatsky, dimanche après-midi, pour soutenir le mouvement d'opposition en Ukraine. 100 000 personnes ont manifesté à Kiev dimanche en faveur de l'Union européenne et contre le pouvoir. Les participants réclament la démission du président Viktor Yanukovych suite à son refus de signer l'accord de coopération avec l'Union européenne, des élections anticipées et la reprise du processus de rapprochement avec Bruxelles. Dans un communiqué rendu public ce lundi, la diplomatie tchèque a aussi réagi. Elle s'inquiète de l'usage de la violence contre les manifestants ukrainiens et Prague ajoute qu'elle espère que les autorités ukrainiennes se comportent à l'avenir en conformité avec les règles d'un état de droit et ne répriment plus dans la violence les manifestations. Le recteur de l'université Charles, Michal Schober, a décidé de quitter le comité d'experts chargé de faire la lumière sur les accusations de manipulation de l'information à la télévision publique tchèque. Composé à l'origine de 5 membres, ce comité avait déjà été réduit suite au départ du journaliste Danny Schmidt. Sur le site Idnes.cz, Michal Schober a expliqué ne plus participer aux travaux du comité en raison de problèmes de santé. Au mois d'octobre, plus de 20 journalistes ont exprimé une plainte auprès du conseil de la télévision tchèque, selon laquelle certaines informations auraient été manipulées au profit du chef de l'État Miloš Zeman et du parti qu'il soutient, le parti SPOS. En réaction, le directeur de ce média, Petr Dvořák, avait décidé la mise en place d'un comité dont les résultats des travaux devraient être connus le 11 décembre prochain. On termine avec la météo. C'est une nouvelle lune qui nous attend ce mardi, jour de la fête des Svatoslaves, mais également des Svatoslava. Le ciel reste sec et largement dégagé, tandis que les températures varient entre 0 et 5 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous était présenté par Pierre Ménian. La suite du programme, c'est maintenant avec Denisa Tomanova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Prague pour votre magazine d'actualité tchèque. Merci à Pierre Ménian pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce lundi, retour sur le jugement émis ce vendredi par le tribunal fédéral de Bellinzona en Suisse dans le cadre de l'affaire de la société minière de Most. Guillaume Narguet nous donnera plus de précisions sur le sujet. La dissidente Natalia Golbanevskaya s'est éteinte ce vendredi à Paris à l'âge de 77 ans. Elle avait notamment protesté contre l'invasion de la Tchécoslovaquie aux côtés de 7 autres personnes sur la place Rouge à Moscou en août 1968. Nous allons nous rappeler ce destin insolite dans quelques minutes. Puis comme chaque lundi, nous retrouverons dans la seconde partie de notre émission la rubrique sportive du lundi. C'est au micro de Pierre Maignan, cette fois-ci, que le réalisateur Laurent Tuel reviendra sur son dernier film « La Grande Boucle ». Vous écoutez Radio Prague, très bonne écoute. Plus de 10 ans après, l'affaire de la privatisation de la société minière de Most, Mostecká uhelná společnost, une des plus grandes sociétés minières tchèques, continue de faire couler beaucoup d'encre et dernièrement vendredi. En effet, le tribunal pénal fédéral de Belinzone en Suisse a décidé qu'aucun dommage ne serait versé à l'État tchèque malgré l'escroquerie établie par la justice dont elle a été victime. Le verdict qui n'est pas passé inaperçu en République tchèque est pour cause. Les quelques 660 millions de francs suisses saisis par les enquêteurs devraient revenir à la Confédération. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
Le président du tribunal pénal fédéral a estimé que dans le cas de la République tchèque, qui avait d'abord renoncé à enquêter sur ce dossier il y a plusieurs années de cela, le montant du préjudice était trop compliqué à établir. Avant cela, 660 millions de francs dispersés sur une centaine de comptes bancaires avaient été séquestrés. Cet argent provenait du détournement des actifs de la société minière de Most. En octobre dernier, la justice helvétique avait déjà rendu un premier verdict significatif en condamnant 5 hommes d'affaires tchèques à des peines privatives de liberté oscillant entre 36 et 52 mois de prison. Ce vendredi, le tribunal a également accordé à l'État suisse une créance compensatrice contre les condamnés d'un montant total de plus de 700 millions de francs sur les sommes bloquées après l'ouverture de la procédure en 2005. Même s'ils disposent encore d'un droit de recours, tous sont reconnus coupables de blanchiment aggravé et d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie. Ces 5 hommes d'affaires, dont certains étaient des ex-administrateurs de la société ou des membres du comité de surveillance, étaient parvenus à contrôler près de 97% de la société minière de Most au moment de sa privatisation entre 1997 et 2003. Mais plus que la condamnation des principaux protagonistes de l'affaire, et compte tenu des montants astronomiques en jeu, c'est la décision de ne rien reconnaître à l'État tchèque qui a suscité l'attention vendredi et le mécontentement de Karolina Zelenková, une des avocates des anciens managers de la société minière.
Pour le tribunal, ce n'était nullement une question de justice. Il s'agissait plutôt tout simplement de confisquer plusieurs milliards de couronnes au profit de l'État suisse.
Au micro de la télévision tchèque, la procureure fédérale Graziella De Falco Haldeman a néanmoins affirmé que tout n'était pas encore perdu pour la République tchèque.
Concernant la République tchèque, nous avons été surpris aussi d'apprendre qu'il n'y a pas eu de restitution directe à la République tchèque. Par contre, il faut le relever, la République tchèque a été considérée comme lésée dans le cadre de cette procédure et elle aura la possibilité de réclamer son préjudice par d'autres voies, notamment par la voie de l'entraide. Il faut rappeler que la République tchèque a déjà présenté une demande d'entraide à la Suisse.
La décision du tribunal pénal fédéral de confisquer une grande partie des valeurs saisies n'a toutefois pas surpris outre mesure les autorités tchèques, ne serait-ce qu'officiellement. C'est du moins ce qu'affirmait Roman Pečenka, le représentant du ministère des Finances.
Nous considérons que le plus important est que le tribunal a constaté univoquement que la République tchèque a été victime d'un préjudice relativement important. Parallèlement, il nous a laissé différentes possibilités pour obtenir réparation lors des prochaines procédures.
Cette procédure future devrait donc être une procédure civile. L'affaire devrait donc être jugée une nouvelle fois et le ministère tchèque des Finances, à l'image de son ancien chef controversé Miroslav Kalousek, se montre relativement confiant sur son issue, sans oublier qu'une procédure est aussi toujours en cours en République tchèque.
Grande figure de la dissidence en Union soviétique, Natalia Golbanevskaya s'est éteinte vendredi à Paris, un mois à peine après sa visite en République tchèque où elle était bien connue. En août 1968, Natalia Gorbanevskaya et sept autres de ses compatriotes avaient manifesté sur la place Rouge à Moscou pour protester contre l'invasion de la Tchécoslovaquie et l'écrasement du printemps de Prague. Lors de son dernier passage d'une dizaine de jours à Prague, en octobre, Natalia Gorbanevskaya avait été décorée de la médaille d'honneur de l'Université Charles des mains du président du Sénat pour son combat pour la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Ce combat, la dissidente d'origine russe le menait dans son pays depuis les années 1960. Et c'est pourquoi le 25 août 1968, 4 jours après l'occupation du territoire tchécoslovaque par les chars du pacte de Varsovie, 8 personnes avaient trouvé le courage de manifester à Moscou, à proximité du Kremlin, leur désaccord avec cette action répressive au sein des pays dits satellites par le régime soviétique. Poétesse traductrice de littérature polonaise, pays dont elle est d'ailleurs devenue citoyenne en 2005, et mère d'un nourrisson de 3 mois à l'époque, Natalia Gorbanevskaya faisait partie du petit groupe de dissidents qui avait arboré la pancarte « Pour votre et notre liberté ». Ces quelques minutes de liberté vaudront à 6 participants de la manifestation plusieurs années de prison. Si Natalia Gorbanevskaya n'a pas été emprisonnée directement par la KGB, elle l'a été par la suite en poursuivant ses activités dans la dissidence. Grâce à l'aide d'une jeune étudiante tchécoslovaque, Yana Klusákova, elle-même devenue journaliste, les manuscrits, les récits relatifs aux arrestations, ainsi que les retranscriptions des interrogatoires, ont pu clandestinement traverser la frontière. Et c'est précisément le dernier livre de Natalia Gorbanevskaya, intitulé « Midi », uniquement traduit en tchèque l'année dernière, qui rassemble ses souvenirs et importants témoignages de l'époque. Son traducteur Milan Dvořák a dévoilé ce qui a fait la singularité de ce recueil.
Protože z Československa se ještě svobodně cestovalo, tak ten rukopis se ocitl.
Comme il était encore possible de voyager librement en provenance de Tchécoslovaquie, ce recueil s'est retrouvé à Munich et c'est grâce à ça que le livre a pu être diffusé dans le monde entier.
Ta kniha potom se mohla šířit po světě.
Pour pouvoir passer clandestinement la frontière, Yana Klusákova avait dissimulé les documents dans une robe de maternité. Elle continue de considérer cet acte de protestation comme un acte héroïque dont il faut s'inspirer. Yana Klusákova. Nous devrions être francs et intègres, et effectivement faire ce que l'on dit. En décembre 1969, diagnostiquée schizophrénique, Natalia Gorbanevskaya a été internée pour 2 ans et 2 mois dans un hôpital psychiatrique. Relâchée, elle émigre et quitte l'Union soviétique en décembre 1975 pour Paris, ville qu'elle ne quittera plus. Lors de la cérémonie de sa décoration en octobre dernier à l'Université Charles, le sénateur Jaromír Štětina avait déclaré.
Často se říká, že...
On dit souvent que les Russes préfèrent le salami que la liberté. Madame Gorbanevska est la preuve que cela ne s'applique pas à tous les Russes.
Pas plus que les 7 autres dissidents soviétiques, Natalia Gorbanevskaya ne s'est jamais considérée comme une héroïne ou une personne courageuse. Selon ses propres paroles, c'est le sentiment de honte qui a guidé son action. Toutefois, l'héroïsme est prouvé par la persistance des opinions des dissidents, malgré la connaissance des répercussions terribles sur eux-mêmes et leurs familles. Dans un entretien accordé à la radio tchèque il y a 1 mois de cela, toujours à l'occasion du 45e anniversaire de l'invasion soviétique, Natalia Gorbanevskaya s'était exprimée sur le douloureux sujet de l'acceptation par la Russie de son passé. Vous savez, c'est assez étrange. Dans les années 1990, il semblait que le passé commençait à être accepté. Beaucoup de livres et de témoignages étaient publiés et on trouvait beaucoup d'informations. Mais le temps nous montre que cela n'est pas si simple. Je crois qu'il y a dans la société russe de plus en plus de personnes qui se fichent de tout. Ceux qui avaient déjà combattu contre ce que l'on avait appelé la contre-révolution se font entendre, mais ils sont en minorité. Pour la plupart des personnes, le concept de mémoire historique est une notion inconnue. Malgré ses 77 ans, Natalia Gorbanevskaya était une blogueuse active qui continuait de s'exprimer par le biais d'Internet, que ce soit sur les événements en Géorgie ou sur l'emprisonnement des membres du groupe de musique russe Pussy Riot qu'elle avait qualifié de grave injustice. La 16e édition du Festival du film français en République tchèque s'est achevée sur un record d'affluence avec plus de 20 662 spectateurs venus apprécier la crème de la cinématographie française contemporaine. Des spectateurs qui ont plébiscité un film qui parle justement de record puisque le prix du public a été attribué au long métrage La Grande Boucle, l'histoire d'un homme passionné par le Tour de France qui va se lancer dans l'aventure de cette compétition mondialement populaire pour regagner le cœur de sa femme. Laurent Tuel, le réalisateur de ce film, était présent dans la capitale tchèque. Au micro de Pierre Maignan, il a d'abord évoqué la naissance de ce projet vélophile.
Sport en République tchèque.
On m'a appelé, c'est vrai que c'est des amis producteurs avec qui j'avais déjà fait Jean-Philippe auparavant, qui est le film avec Johnny Hallyday, Fabrice Luchini. Ils avaient un scénario dont ils n'étaient pas tout à fait satisfaits et ils connaissaient moi ma sensibilité et de ce que je pouvais peut-être amener pour le projet. Et donc c'est de ramener en fait beaucoup dans les histoires, beaucoup d'humains, peut-être supprimer un petit peu des scènes, un petit peu de cascade ou d'action et de me reconcentrer un peu sur les personnages, développer certains personnages. Donc c'est ce que j'ai fait pendant un mois, j'ai réécrit un petit peu, adapté à moi ce qui me semblait être bien pour raconter cette histoire. Et puis après on est parti dans cette aventure. C'est vrai que j'aime en plus beaucoup, je suis très attaché au Tour de France, non pas pour l'aspect compétition, mais pour ce que ça réunit, pour cette tradition française, même si c'est ennuyeux, qu'on regarde ça à la télé, que ça dure des heures et tout ça, il y a quelque chose de très plaisant à ce que ça soit là. On peut haïr le Tour de France, mais si ça disparaissait, ce ne serait plus le même mois de juillet, il y a cette logorée comme ça qui traîne, par les commentateurs, des choses comme ça. Et donc, je voulais capter tout cet aspect-là. Et d'ailleurs, c'est un des aspects du film. Le personnage principal qui est joué par Clovis Cornillac, sa femme, qui est jouée, elle, par Élodie Bouchèze, on a tellement marre de ce truc-là qu'elle met son mari dans un ultimatum. Finalement, elle quitte son mari. Et tout le film va être comment on rassemble une histoire d'amour. Et le Tour de France est un prétexte dedans.
Pourquoi le choix de Clovis Cornillac pour jouer le rôle principal, sachant que c'est un rôle assez physique?
C'est un rôle physique, c'est vrai. Mais bon, à la fois, c'est pas ça qui m'a déterminé. C'est Clovis, en fait, moi, je dis que tu seras mon Jean Gabin. Voilà, il me fait penser à Jean Gabin parce qu'il a quelque chose d'accessible, de populaire, et c'est un excellent acteur qui sait, qui peut donner aux gens le sentiment qu'on est proche. On n'est pas avec une star qui va nous mettre à distance. Et comme moi, c'était une histoire de gens normaux, vous et moi, pas des petites gens, parce qu'on dit des petites gens, mais non, c'est des gens simples. Et de cette histoire, je pense que Clovis a cette qualité de pouvoir se fondre dedans et de que ce soit réflectif, qu'on se sente bien avec ça.
Alors, comment il s'est investi dans son rôle? Est-ce qu'il s'est entraîné
Alors, beaucoup, parce que en fait, Clovis, il joue pas un champion cycliste, hein, il a pas du tout la morphologie, il joue Monsieur Tout-le-Monde qui décide de faire quelque chose d'un petit peu exceptionnel et que beaucoup de gens peuvent faire, hein. Ça faut un petit peu d'entraînement bien sûr, mais c'est pas un champion de course, il est pas censé faire ça. Mais pour les besoins du film, comme on fait des prises une fois, deux fois, trois fois, il faut être toute la journée sur le vélo. Et ça, il l'a bien anticipé, c'est un grand pro de son métier, et donc il a bien compris que ça serait pas facile, donc il a fait 6 mois d'entraînement. Sérieux, comme ça, 3000 km d'école, des choses comme ça, pour pouvoir, au moment du tournage, quand je dis, Clovis, on se met en bas et on remonte la montagne, il me disait OK. Il disait pas de problème, il disait OK, il était capable de le faire.
D'accord, il fallait le faire.
Il fallait le faire.
Alors, ce film, justement, il parle un petit peu aussi de l'articulation entre le sport professionnel et le sport amateur.
Quand on fait un film où il y a le Tour de France dans le cadre, on ne peut pas ne pas parler, enfin en tout cas d'être un peu critique avec le sport business et aussi bien sûr les problèmes de dopage, de drogue, de choses comme ça, que le besoin qu'ont les gens de presque de voir des gladiateurs se faire du mal ou aller à la mort parce qu'ils prennent des substances et qu'on a besoin de records. Donc le film écorne ça un petit peu. Et là on montre justement qu'il y a des gens qui peuvent faire aussi des choses un peu exceptionnelles sans avoir recours à des produits dopants et qu'on n'a pas besoin d'avoir le culte de la performance absolue ou de créer des records qui soient complètement inhumains et avec tous les dangers que ça représente. Le film donc évoque ça sous des aspects de comédie.
D'accord, parce que justement en République tchèque et lié au Tour de France, il y a eu comme ça des exploits, on va dire, sportifs. En 2005 par exemple, il y a Josef Zimovchak qui a fait le Tour de France en grand bi. Et cette année, il y a 6 Tchèques qui ont décidé de faire le Tour de France, le 100e Tour de France, en trottinette. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de... Et vous connaissiez ces
Oui, oui, je connais ces choses-là, effectivement. Je trouve ça très sympa parce que généralement, c'est associé, quand ils font ça pour une cause, on l'a vu, soit pour les orphelins, orphelins d'Afrique ou pour rassembler des fonds pour les gens dans la rue, les homeless people, choses comme ça. Et c'est vrai que c'est, et je trouve que c'est un côté sympathique parce que c'est pareil, moi cette année j'ai donné le départ à Porto Vecchio qui commençait le Tour de France, c'était la première étape. J'ai donné le départ à un groupe de jeunes d'une association de filles et de garçons qui faisaient aussi le Tour de France un jour avant les pros, mais à leur rythme, tout ça. Ils sont arrivés sur les Champs-Elysées, tout le monde est arrivé et c'était assez chouette parce qu'ils défendaient les couleurs d'une association pour le cancer, donc ils ont rassemblé des fonds grâce à ça, ça met un peu focus. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa, quoi.
D'accord, parce qu'il y a aussi, par exemple, cette année, encore une fois, dans cet même esprit, le départ du contre-la-montre qui partait du Mont-Saint-Michel, oui, a été ouvert par un coureur unijambiste qui s'appelle Jiří Ježek, un tchèque aussi.
Bah, ça peut servir à ça, le sport, c'est-à-dire que c'est un moyen de communication, de rassembler les gens, de s'interroger sur des choses. Ça doit être, c'est pas la performance est bien sûr intéressante, on peut regarder ça sous cet aspect-là, mais c'est vrai que le Tour de France offre une vitrine à beaucoup de choses comme ça. Et d'ailleurs, l'intérêt, on le voit, du Tour de France, c'est pas aussi seulement de voir des coureurs arriver les premiers, mais c'est tout ce que il y a beaucoup de gens qui passent leur journée devant, parce que on voyage, on découvre, c'est très bien fait d'ailleurs par France 2, parce que ils ont un spécialiste qui nous parle de toute l'histoire de France à travers ça, à travers cette pérégrination dans le pays. On raconte l'histoire, la géographie, il y a plein d'anecdotes, d'invités, donc ça met une ambiance sympathique.
Alors justement, le Tour de France comme une vitrine un petit peu du patrimoine historique de la France, de ses paysages, comment vous, le tournage, vous l'avez adapté à ça? C'est-à-dire quels ont été les lieux de tournage? Comment vous avez suivi peut-être le Tour de France?
Bien sûr, oui. C'est vrai que quand on a le scénario, on se dit après comment on va faire. Donc il faut avoir le Tour de France est organisé par une société privée, donc il faut avoir leur accord. Et c'est assez compliqué parce que c'est une grosse machine, le Tour de France. C'est 4000 journalistes qui sont accrédités, qui changent tous les jours. Voilà, donc il faut trouver des places d'hôtel, c'est réservé 2-3 ans à l'avance. Bon, il a fallu nous adapter parce qu'une équipe de cinéma, c'est aussi assez important. À tout ça, et après de faire les choix pour des raisons de production, de tourner dans différentes régions, mais on ne pouvait pas non plus aller tourner partout, faire sur le tour. Donc il a fallu faire des choix, et puis on s'est décidé ce qui était un petit peu emblématique, qui correspondait bien à l'histoire. Donc voilà, on s'est adapté à tout ça, mais la difficulté c'était d'arriver, de trouver en accord avec le ASO, l'organisateur. C'était trouver le moyen d'avoir la véracité, parce que pour moi c'était très important de recréer le tour et qu'on a des scènes à l'intérieur, notamment la fin qui se passe, le final sur les Champs-Elysées. Il fallait faire quelque chose qui soit fort, qui nous donne une émotion comme ça. Et donc mettre des amateurs à l'intérieur de ça, c'était compliqué. Donc on a une possibilité qui était d'avoir 2 heures de tournage juste avant que les coureurs arrivent, de recréer tout ça. Donc les gens étaient très surpris parce que quand nous on avait recréé un peloton de 150 coureurs, le public, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en avance. Les gens ne comprenaient pas. Et nous c'était un faux peloton, donc on racontait notre histoire avec ça, c'était très marrant.
D'accord, et alors le public réagissait comment justement? Est-ce qu'ils encourageaient ces
Ils encourageaient, oui, tout à fait. Ils étaient parce qu'ils voyaient, et puis après on est passé avec un microphone pour leur dire c'est un tournage, faites comme si c'était le vrai Tour de France, les gens jouaient le jeu, c'est un peu une fête. Ouais.
D'accord, alors vous n'écartez pas non plus les sujets qui peuvent ternir ce sport et qui sont la publicité à outrance et le dopage.
Bien sûr, c'est important. On peut pas. C'est le film, même s'il y a un aspect, on va dire, conte de fées un petit peu à l'intérieur. Ce que je voulais, moi, faire mon projet avec le film, c'était pas de faire un film pamphlétaire, c'était de faire un film où en tant que père, comme ça, j'ai envie d'aller avec mon fils et puis d'emmener mon grand-père et que chacun trouve du plaisir. C'est-à-dire que le film a plusieurs échelles comme ça pour pouvoir être apprécié sans que personne s'ennuie. Et c'est de plus en plus rare, je trouve, les films qui rassemblent les familles un petit peu comme ça. Et moi, c'était un projet, c'était de réussir un film familial. Mais à l'intérieur de ça, c'était bien aussi on peut pas faire non plus l'impasse sur les problèmes, mais on peut le traiter d'une façon de comédie. Donc c'était pas un film pamphlétaire, mais on devait parler du sport, du dopage, du sport business, qui devient complètement envahissant, complètement délirant. Et on peut s'en moquer et faire ça avec humour.
Est-ce que Nelson Montfort est un acteur facile à diriger?
C'est un acteur en tout cas sympathique à avoir sur un plateau parce qu'il est vraiment marrant, lunaire, fantasque comme ça. C'est un acteur parce qu'il aime vraiment ça, donc non, il se pliait au jeu et tout ça, et donc c'était, c'était sympa et facile.
D'accord. Il y avait aussi d'autres acteurs comme ça qui ne sont pas forcément dans leur premier emploi.
Non, ça a été plus difficile avec Bernard Hinault et Laurent Jalabert, qui eux sont moins habitués à jouer la comédie que Nelson, qui est quand même un présentateur qui est de télé très célèbre en France.
Ils ont pourtant moins de lignes de dialogue.
Ils ont moins de lignes de dialogue, mais ça a été pourtant plus dur.
D'accord. Alors,
On va un petit peu quitter le film. On est ici en République tchèque. Vous connaissez un petit peu ce pays. Je crois que vous avez déjà été ici.
J'ai tourné il y a une dizaine d'années un vidéoclip pour une chanteuse française. Et j'avais choisi de venir à Prague parce qu'il y a une atmosphère que j'aime beaucoup. Moi, je suis... en fait, le cinéma, je l'ai commencé en fait en aimant par Kafka, d'une certaine manière, les nouvelles de Kafka. J'aime beaucoup le surréalisme et l'humour noir, et je trouve que Kafka est plein de ça, et donc ces nouvelles, on retrouve ça. Et notamment dans le procès d'Orson Welles, qui est un film que j'aime beaucoup, il y a une petite nouvelle de Kafka qui est habituée comme ça, qui a été fait au crayon, au fusain, et j'ai toujours ça en tête, et j'avais envie de retrouver cette ambiance, voilà, en venant à Prague, revenir un peu sur le lieu de cette terre, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire un clip ici. Hein.
C'est déjà la fin de notre émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que ce programme et l'ensemble de nos rubriques sont disponibles sur notre site internet www.radio.cz/fr. Cette émission vous a été présentée par Denisa Tomanova. À très bientôt, de nouveau à l'écoute de Radio Prague.